Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Et 14h06, salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. Si vous nous rejoignez sur RMC, c'est le début de votre après-midi. Juste derrière, à 15h, Christophe Cessieux prendra les choses en main pour l'un des rendez-vous de la journée, la finale de la Champions Cup. Pour la quatrième fois de rang, va-t-on avoir un club français champion d'Europe? La réponse à partir de 15h45, Toulouse défie le Leinster. Sans oublier le Grand Prix de Monaco en Formule 1, les qualifications à partir de 15h et la finale de la Coupe de France ce soir entre Lyon et le PSG. On va tout vous présenter et puis vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous du week-end, votre magazine olympique pour tout savoir de l'actualité. Avec en invité aujourd'hui, Timothée Vergia, membre de l'équipe de France de basket 3-3. C'est le début de votre après-midi sport sur RMC. Grosse journée avec que des grands rendez-vous, jour de finale, 4 au programme, rien que ça. On va vous donner le programme tout de suite avec tous les enjeux. Et puis direction d'abord Londres et le Tottenham Hotspur Stadium, précisément pour le rendez-vous rugby. La finale de la Champions Cup entre Toulouse et le Leinster. Wilfried Templier et Yann Delex sont sur place pour nous faire vivre ce grand moment. Salut messieurs.
Salut.
Salut Flora, on est pionniers sur les finales. Premier sur les finales.
C'est Wilfried, tu prends soin de Yann, s'il te plaît, pour moi. Normalement, ah bah oui. Il est avec moi le samedi, donc là, je te le confie.
C'est vrai.
Bah, là, il n'a pas à se plaindre. Hein.
Bah, ouais, je me doute.
Tottenham,
Messieurs, ouais, c'est quand même la finale rêvée. Aujourd'hui, on va être honnête, entre les deux équipes les plus titrées de la compétition. Et on espère à la fin qu'un club français sera titré pour la quatrième fois de suite, quand même.
Effectivement, huitième finale de chaque côté, mais deux meilleures équipes sur l'année. Si on fait le classement de toutes les poules, le Stade Toulousain fait complet 20 sur 20 au niveau des points, 19 pour le Leinster. C'est la logique aujourd'hui, c'est finale de rêve, on a envie de dire.
Ouais, la logique est respectée, effectivement. Le Stade Toulousain, je regardais même sur les différentes statistiques, sont quasiment premiers partout, sauf sur la défense. Ça veut dire qu'ils portent plus le ballon que les autres, donc c'est pas très grave. Mais ouais, c'est les deux meilleures équipes, clairement, sur toute cette saison-là. Donc voilà, ça va être un choc énorme.
Avec pas mal d'internationaux, on en parlait tout à l'heure, Flora et Kian, on se disait 20 internationaux irlandais sur les 23 du Leinster, 13 pour les Français. C'est pas France-Irlande, mais c'est déjà un Irlande-Stade Toulousain.
Ouais, c'est vraiment un match international, c'est incroyable. Et encore, quand on parle de 20 internationaux irlandais, ça veut dire qu'il y en a deux autres dans l'équipe qui sont internationaux, pas irlandais, mais ils sont internationaux quand même pour d'autres pays. Donc voilà. C'est pour dire le niveau de ce match-là, ça va être tout le monde attend cette grande rencontre, ce grand défi pour le Stade Toulousain. Ça va pas être facile, c'est du 50-50, on a tendance à dire sur des finales, mais alors là, plus que jamais.
Ouais, et puis il y a des histoires de revanche aussi dans ce match pour Toulouse, évidemment, face au Leinster, mais aussi pour les Irlandais, qu'on a un petit peu marre quand même de tomber en finale. Hein.
Ouais, ça fait. Parce qu'on a en souvenir, évidemment, les deux dernières contre La Rochelle, mais on peut remonter à 2019, ils en ont perdu une contre les Saracens. Ouais. On dit que Toulouse a ça en tête, la bête noire du Leinster, parce qu'ils viennent de perdre trois demi-finales en plus. Hein, en 2019, c'était déjà Leinster.
Ouais, c'est ça.
2022-23 au Leinster. Mais on oublie que le Leinster a mal à la tête depuis quelques années. Yann, tu disais, ils ont battu Toulouse sur les dernières années, mais perdent à chaque fois en finale.
Et ils perdent à chaque fois en finale.
Comment on fait ça, mentalement, pour aborder ça? C'est pas sans y trop y penser.
Ouais, faut pas y penser. Je pense qu'il ne faut pas y penser.
Allongez-vous sur un canapé.
Exactement, c'est ça. Mais non, mais c'est quand même la bête noire du Stade Toulousain sur les trois dernières années. Donc, ils ont sûrement ça en tête quand même, malgré tout. Après, Toulouse, ils savent très bien jouer les finales. Là, ils jouent la 8e. Ils ont gagné 7 précédemment. Donc, c'est quand même énorme. Depuis 2008, ils n'ont pas perdu de finale, les Toulousains.
Oui.
Donc, c'est quand même une stat incroyable aussi. Maintenant, c'est une finale. À un moment donné, les stats, on n'en les regarde plus. C'est-à-dire que ça sera vraiment la meilleure équipe qui va gagner. Sur des finales comme ça, les trucs importants, c'est la discipline, c'est le banc des équipe, parce que les matchs vont vraiment se jouer sur 80 minutes tout au long de la partie. Il va falloir être en forme, il va falloir être prêt, vigilant, et puis aussi s'adapter à l'arbitrage, c'est-à-dire faut vraiment que déceler très très vite où l'arbitre va être attentionné, et c'est sur des matchs comme ça, sur des finales comme ça, que c'est très important.
Juste pour l'anecdote, c'est Mathieu Carlet, c'est un anglais d'arbitre, et Flora, les Toulousains ont passé le début de la semaine avec Mathieu Reynal, arbitre international français, qui a passé deux jours avec eux pour discuter justement, peut-être par rapport à l'arbitrage de Mathieu Carlet, et voir certaines choses.
Se préparer, pas avoir de mauvaises surprises aussi.
Rien laissé au hasard.
Ouais, messieurs, si on rentre un peu plus précisément dans le match aussi, il y a un duel de numéro 9, évidemment, attendu entre Gibson Park d'un côté, et puis évidemment Antoine Dupont de l'autre. D'ailleurs, Gibson Park Park a parlé d'Antoine Dupont cette semaine en parlant de lui comme pas seulement le meilleur neuf, mais probablement le meilleur joueur mondial des dernières années. Pas mal ça,
ouais,
quand même.
Il a peut-être pas tort.
Il a sûrement raison, mais maintenant, faut pas se faire endormir par les trucs comme ça.
Généralement, quand on dit des bonnes choses comme ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Hein.
Oui, mais bon, c'est vrai qu'Antoine Dupont est stratosphérique, hein, voilà, dans toutes les facettes de son jeu, que ce soit avec ballon, jeu au pied, défense. Gibson Park n'est pas maladroit.
Il est très très bon aussi, c'est vraiment le maître à jouer.
Comment ? Registre différent ?
Pas vraiment, non, ils se ressemblent. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal quand même dans leur façon de jouer, mais c'est deux maîtres à jouer de leur équipe. Guide, ça me semble que ce soit avec l'Irlande ou avec le Leinster, voilà, c'est la plaque tournante de cette équipe-là, toujours très très important. Sincèrement, je mets Dupont un peu devant, mais sur une finale, en plus, il va vouloir prouver. Quand on joue meilleur joueur du monde en face de nous, on se dit, ben voilà, c'est notre jour, c'est là.
Je sais pas,
si je
pas arrivé.
Si je lui marche dessus et si je suis meilleur que lui, eh ben on va parler de moi, quoi. Donc, non, ça va être un match incroyable et entre eux, c'est des joueurs et ça va être du très très haut niveau, je pense.
Ouais, Toulouse de retour en finale 3 ans après, en quête d'un 6e titre quand même, on le rappelle, dans cette compétition. C'était le meilleur représentant français en finale, le Stade Toulousain, au vu de la saison qu'ils font aussi en top 14, où ils surdominent.
Ils sont quand même impressionnants cette année. On a l'impression vraiment qu'ils survolent à la fois le top 14 et à la fois cette Coupe d'Europe-là.
Année de Coupe du Monde pourtant, où les internationaux ont beaucoup donné en première partie.
Effectivement, mais on voit aussi la profondeur d'effectifs du Stade Toulousain, puisque même quand ils changent l'équipe, on peut remplacer l'un par l'autre, ça bouge pas, il y a toujours la même façon de jouer, la même ADN de jeu, et en même temps, les résultats sont toujours là aussi, et souvent par un score assez large. Donc ils sont assez impressionnants, et ils méritent d'être où ils sont aujourd'hui, évidemment.
Messieurs, un dernier mot quand même sur l'ambiance qui va nous attendre ce soir dans ce match, le Tottenham Hotspur Stadium, qui est plus un match de football normalement que de rugby. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Toulousains dans ce stade ?
Alors on disait 5 000, c'est difficile à prévoir.
C'est ce qu'il y a annoncé,
ouais. Mais pas beaucoup de voyages organisés, donc ils se sont débrouillés un peu. Il y aura une marée bleue. Il y aura plus de bleu, on l'a vu dans les rues tout à l'heure, plus de bleu que de rouge évidemment, parce que les Irlandais, peut-être que les Irlandais savent voyager, s'organiser depuis, que ce soit avec l'équipe d'Irlande ou avec leur province, Yann, ils sont tout le temps présents.
Ouais, puis voilà, ils sont quand même au rendez-vous de la finale depuis longtemps, donc ils s'organisent peut-être en amont aussi, en se disant, voilà, on fait le pari que notre équipe sera encore là cette année. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi pour venir jusqu'à Londres d'Irlande. Mais effectivement, il y a une marée bleue quand même qui est arrivée. Quand on est arrivé au stade tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup de maillots bleus.
Plus de 65 000 personnes, Flora, tout à l'heure pour ce coup d'envoi à 15h45. Et cette finale, j'allais dire 3 étoiles, mais non, c'est 5 étoiles d'un côté, 4 de l'autre. Et voilà, il y a une dixième, comme on l'a dit, il y a une dixième qui va tomber, savoir de quel côté elle tombera.
Vous allez vous régaler, messieurs. Merci beaucoup. Wilfried, Yann, on vous retrouve évidemment tout à l'heure, 15h45 pour le coup d'envoi. Et dès 15h. Voilà. Évidemment. Avec Christophe Cessieu à la baguette, évidemment, pour faire monter un petit peu l'ambiance. Merci beaucoup, messieurs.
À tout à l'heure.
L'autre gros événement du jour, c'est ce soir à 21h, la finale de la Coupe de France entre Lyon et le PSG à Lille, avec Jeannot Essegué et Arthur Perrault, notamment à la baguette ce soir pour AMC. Et Arthur est déjà avec nous. Salut, Arthur.
Salut, Flora. Bonjour à tous. La meilleure finale. Alors, j'aime beaucoup Wilfried et Yann. Et la meilleure finale, c'est ici. Ça, je peux vous le dire.
Chacun vend son petit bout de gratte. C'est cette finale
Oui. Je te confirme. Mais c'est ici que ça se passe. Voilà.
Bon, cette finale de la Coupe de France, elle marque la fin de la saison, évidemment, pour le PSG, pour Lyon. Oui. Il y a des ambitions bien différentes des deux côtés, mais au moins, on est rassuré, Kylian Mbappé est dans le groupe parisien cette fois-ci. Hein.
Oui, et tu as raison de dire dans le groupe, avant de dire sur le terrain titulaire ce soir. On va dire pas à 100%, pour être très franc, et c'est vrai que même si Luis Enrique, hier en conférence de presse de veille de match, a répondu avec un sourire en coin qui laisse place à interprétation que bien sûr Kylian Mbappé sera là, que bien sûr il sera titulaire, on va dire que depuis le début de la semaine, la tendance ne cesse de bouger au campus PSG de Poissy, et que malgré cette réponse hier, voilà, c'est difficile encore de l'affirmer à 100%. Ce qui est sûr, c'est qu'il a participé à la traditionnelle séance de veille de match ici au stade Pierre-Mauroy, que la séance s'est bien passée, il a paru très détendu, et que voilà, c'est quand même la grosse tendance, mais encore une fois le flou va être entretenu jusqu'à tard ce soir et l'annonce de la composition d'équipe parisienne.
Ouais, ce serait quand même fou de ne pas voir Kylian Mbappé sur le terrain ce soir pour ce qui est, on le rappelle quand même, mais son dernier match avec le Paris Saint-Germain. La fin de saison en Ligue 1 a déjà été un petit peu difficile pour lui parce qu'il n'a pas joué les derniers matchs. On a dû du mal mal à imaginer qu'il ne puisse pas faire ses adieux ce soir au PSG quand même.
On va dire que ça va avec le contexte, Flora. On rappelle qu'Kylian Mbappé n'a plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis le 15 mai dernier. C'était justement face à Toulouse au Parc des Princes avant la célébration du titre de champion de France. Que depuis, il y a d'abord eu ces mots de Luis Enrique qui a dit qu'il attendait plus de caractère de la part de ses hommes. Alors, on va dire que ça a concerné indirectement Kylian Mbappé. On peut aussi ajouter Ousmane Dembélé qui lui aussi n'a plus joué depuis cette rencontre avec le club de la capitale. Et d'ailleurs, hier, on lui a aussi demandé voilà, comment il avait senti Kylian Mbappé tout au long de la semaine. Est-ce qu'il était beaucoup plus impliqué comme il l'avait demandé à ses hommes ? Une nouvelle fois, il a décidé de brouiller les pistes. Ça montre bien à quel point c'est une gestion presque au jour le jour concernant Kylian Mbappé. Et puis, on va le dire, Flora, il n'est pas très sentimental, Luis Enrique. On aurait pu s'attendre à une dernière en championnat de Keylor Navas, qui lui aussi a annoncé son départ du championnat du Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu le droit à cette dernière. Bon, est-ce que là il va offrir cela ? Voilà, est-ce qu'il va offrir ça à Kylian Mbappé ? C'est pas sûr.
Ouais, 2 ans de suite, en tout cas, que le PSG ne gagne pas cette Coupe de France, c'est presque une anomalie hein, dans ce club parisien.
Oui, et on sent quand même que le club y est très attaché parce que hier, Marquinhos s'est présenté en conférence de presse juste avant le coach, comme on vient de le dire. Il est très clair, le capitaine parisien, c'est une coupe qui tient à cœur aux supporters. Et d'ailleurs, ils seront 15 000 supporters parisiens à faire le déplacement. Ils sont d'ailleurs en ce moment même sur la route. 18 cars qui ont pris le départ du Parc des Princes, qui sont en train de rallier le nord de la France. Voilà. Paris doit remporter ce 15e trophée. Paris, certes, a réalisé une très bonne saison, mais on va dire que ça serait clairement la cerise sur le gâteau de venir ici à Lille soulever ce trophée à l'issue de cette première saison pour Luis Enrique.
Et que dire à l'inverse pour Lyon après cette saison, ce début de saison catastrophique et puis cette fin de saison presque rêvée pour eux avec cette place en Coupe d'Europe. Alors si en plus ils vont chercher un titre avec cette Coupe de France et en plus face au Paris Saint-Germain, alors là Pierre Sage, je pense qu'il va avoir sa statue à Lyon.
C'est presque inespéré. Tu as raison. Pour résumer tout ce que tu viens de dire, on rappelle la première partie de saison catastrophique où Lyon a longtemps été dernier. Il termine sixième du championnat à l'issue d'une remontée incroyable. Et d'ailleurs, Luis Enrique, preuve qu'il a bien planché sur sa rencontre, a rappelé le bilan des Lyonnais et de Pierre Sage. Certes, il y a tout un contexte avec le fait que Lucas Perry devrait débuter dans la cage et pas d'Anthony Lopez et que voilà, on l'a bien vu hier. C'était vraiment au cœur de toutes les attentions lors de cette conférence de presse de veille de match. Mais on sent aussi chez les joueurs, et notamment Corentin Tolisso qui l'a rappelé, avoir gagné une Coupe du Monde, c'est bien. Oui, la Ligue des Champions, c'est beau, mais gagner ce trophée avec son club formateur face à ses supporters ici, qui eux aussi seront 15 000, forcément, c'est une saveur particulière, surtout après avoir autant galéré en début de saison et être passé par toutes ces émotions.
On va en vivre des émotions aussi ce soir, 21h pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe de France entre Lyon et le PSG. Merci beaucoup Arthur. On te retrouve évidemment avec toutes les équipes toute la journée sur RMC pour les dernières infos et notamment cette composition d'équipe tant attendue du PSG. Merci Arthur. Autre événement aujourd'hui, le lieu people par excellence où il faut être cet après-midi, c'est évidemment Monaco pour le Grand Prix de Formule 1, 8e manche du championnat du monde avec les qualifications tout à l'heure que va nous faire vivre demain de maître Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Flora, salut à tous.
J'espère que tu as sorti tes lunettes de soleil, les chaînes bling et tout ce qui va avec, parce que clairement, le Grand Prix de Monaco, c'est peut-être le plus célèbre de tous, le plus mythique aussi pour les pilotes qui rêvent tous de le remporter un jour. C'est ce qu'ils ont répété toute la semaine.
Mais bien sûr, tellement atypique par rapport à tous les autres tracés, on le sait bien, présent dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 depuis sa création en 1950. Il y a même eu des courses dans les rues de Monaco bien plus tôt, je crois que ça remonte à 1929. Donc c'est vrai que c'est l'événement bling bling, comme tu dis, puisqu'il y a le festival de Cannes qui se joue juste à côté. Et qu'on a de nombreuses stars qui viennent évidemment parader sur la grille de départ, mais pas seulement. Tous les yachts sont sortis, bref. Au-delà de tout ça, je te rassure, les 20 pilotes seront bien sur la grille. En tout cas, ils se sont déjà bien battus dans les 3 séances d'essais libres. Ouais. Et ma foi, pour susciter un peu l'enthousiasme, tu vois ce que je veux dire, il y en a un qui a fait ce qu'il fallait.
Oui, exactement, mais c'est vrai que il y a cette domination quand même de Red Bull sur ce circuit. Red Bull qui a remporté les 3 dernières éditions. Évidemment, Max Verstappen, à chaque fois, il nous fait le coup. Les séances d'essais libres sont un petit peu moins bonnes et puis cartonne tout sur le dernier tour des qualifications. Est-ce qu'on se dirige encore vers le même scénario ce week-end à Monaco?
Bah lui, il aimerait bien, ça c'est sûr. Maintenant, je te donne ses perfs. Hein. Il était 11e dans la première séance d'essais libres. Bon, pas terrible, un peu largué. Et puis, on voit qu'il fait pas semblant, hein, parce que quand il essaie d'attaquer, bah il lèche un peu les rails. C'est comme ça que ça se passe. Il est vraiment en difficulté. Il est nulle part. On entend ses commentaires à la radio. Bon, ensuite 4e de la deuxième séance d'essais libres. Alors bon, c'est un peu mieux, mais c'est encore moyen. Puis bon, il faut reconnaître que ce matin, ça a été mieux. 2e temps derrière Charles Leclerc. Bon, à 197 millièmes, bah, ça veut dire qu'il est en train de redresser la barre. Mais si tu veux le vrai niveau de la Red Bull, je vais te le donner. Sergio Pérez, 12e dans la première séance, 8e de la deuxième et seulement 5e de la troisième. Donc tu vois, c'est bien comme d'habitude ce bougre de Verstappen qui fait la différence.
Ouais, exactement. Mais tu en as parlé quand même de Charles Leclerc parce qu'on le sait, c'est évidemment un Grand Prix particulier pour lui. Le Monégasque est toujours en quête de sa première victoire cette saison et de sa première victoire aussi sur ses terres. Et pour le moment, dans ses séances d'essai, il a été performant.
Et le pauvre, oui, là il a été excellent puisque c'est le plus rapide, mais je dis le pauvre parce que tout le monde lui pose la question, mais alors quand c'est que tu gagnes? Parce qu'il n'a jamais remporté une victoire dans quelque catégorie que ce soit depuis, et on sait bien, il est monégasque, hein, il a coutume de rappeler qu'effectivement quand il était petit, qu'il allait à l'école, il connaissait chaque centimètre du parcours, il connaissait le nom des fourmis, même le prénom des fourmis sur le chemin, donc on peut dire qu'il est vraiment chez lui. Il avait signé 2 fois la pole en 2021, en 2022, cruel destin en 2021. Il n'a même pas pris le départ. Il avait eu un problème dans le tour de formation. Bon, donc tout le monde croise les doigts pour lui parce que c'est vrai que la Scuderia a fait des progrès considérables. On les a vus un tout petit peu en dedans, mais surtout en qualif. Donc bon, on va pas se mentir, c'est là que ça va jouer. Hein, c'est en qualif puisque la seule exception notable, et on la cite toujours et avec un immense plaisir, bien sûr, c'est Olivier Panis qui avait remporté la victoire en 1996. Pour tout te dire, j'avais eu le plaisir de le commenter en direct à l'époque et c'était une joie immense. Alors bien sûr, la météo avait fait des siennes et là aussi, je te rassure, il y avait quelques menaces de pluie ou de perturbations. A priori, c'est écarté, tant aujourd'hui que demain. Donc ce sera pas un peu la roulette, tu sais qu'il y a le casino à Monaco, bien sûr, il y a le grade du casino. Ça devrait pas être la roulette de la météo en tout cas.
Merci beaucoup Jean-Luc, 16h pour les qualifications aujourd'hui, 15h demain pour le Grand Prix. On débriefera évidemment, on suivra le Grand Prix avec toi en direct et puis on débriefera tout ça évidemment sur place aussi pour les réactions. Merci beaucoup Jean-Luc. On se retrouve tout à l'heure et toute la journée sur RMC de demain aussi. L'événement ce week-end, vous le savez, c'est les grands débuts de Roland-Garros, le grand chelem parisien du côté de la Porte d'Auteuil avec un événement évidemment Raphaël Nadal et on va en parler tout de suite avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut Flora, salut à tous.
On ne parle que de lui, plus que toi d'ailleurs, on parle plus de Nadal que de toi, Raphaël Nadal évidemment, avec cette question qui se pose, est-ce que ce sera son dernier Roland-Garros évidemment? Papa, une réponse très claire hein, de l'Espagnol quand même.
Non, c'est vrai que je peux dire qu'il y avait une salle comble dans le conférence de presse, dans la grande salle, il y avait et plus un siège de libre. Et c'est vrai que bah, tout de suite, il a la première question a fusé de la part d'un journaliste américain, donc il a tenté de répondre, mais en fait, il s'est presque excusé de ne pas pouvoir donner de réponse définitive, puisque il sait pas. Il sait pas si ce sera son dernier Roland. Il a dit sorry, je peux pas vous le dire. On se rappelle qu'à Madrid, il y avait une cérémonie parce qu'il avait assumé le fait que c'était son dernier tour de Madrid. À Rome, il avait quitté le court comme un voleur après sa défaite face à Urquhart. Il voulait pas de cérémonie parce qu'il savait pas. Donc oui, il est dans l'inconnu. Pourquoi il est dans l'inconnu, Flora? Parce que il sent qu'il rejoue très très bien au tennis depuis une dizaine de jours. Et moi, je suis le témoin de sa première séance d'entraînement à Paris. C'était lundi. Et il ne cesse de progresser. Donc, il sent qu'il redevient compétitif à l'entraînement. Maintenant, comme il l'a dit avec un sourire, à Rome, c'était un désastre, alors que déjà, je rejouais bien à l'entraînement. Donc, il est un peu dans le flou. Mais ce qui est rassurant pour les fans ou pas, c'est que si jamais il perd lundi contre Zverev, il y aura une chance de le revoir, je pense. Parce qu'il a toujours cet amour du tennis, cette passion. Ouais. Et à la fin, on a pu le faire en one-to-one avec quelques radios françaises. Et je lui ai montré une photo qui circule sur le web, qui est absolument fantastique, où on voit le garçon qui a gagné son premier Roland en 2005 et le garçon d'aujourd'hui. Ils sont face à face au filet. On voit les 14 trophées de Rafa derrière. Je vous la conseille. Cette photo, elle est fantastique. Et je lui ai demandé de commenter cette photo. Et de cette phrase magique, il a dit: j'aimerais bien être le mec qui est habillé en vert quand même. Parce que voilà, il sent qu'il est vieilli, mais il a toujours cette flamme. Et je peux vous dire que cette conf de presse en termes de com, c'était un masterclass. Et je ne conseille pas à Sacha Zverev de la lire parce que il va avoir peur en rentrant sur le court. On ne connaît pas encore l'horaire.
Ouais.
On sent que ça pourrait être lundi après-midi parce que je pense que Marie Mauresmo veut offrir le spectacle au plus grand nombre, à savoir sur France Télévisions. Mais
puis
je pense
Nadal
que ça va être un moment magique.
Nadal préfère jouer en plus en plein après-midi. Lui, il aime bien. Là.
Ça va être un moment magique et il y aura une atmosphère incroyable pour un premier tour, alors que ça ouais. pourrait être
bah,
un quart, une demi ou une finale.
Ouais,
mais en tout cas, formidable conf de presse de Rafa Nadal. Ça nous promet des heures fantastiques ici.
Ouais, on sent l'histoire d'amour oui. très forte entre Rafael Nadal et Roland Garros. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve évidemment tout au long de la quinzaine du Grand Chelem parisien sur RMC pour les dernières infos. On présentera tout le tournoi d'ailleurs demain avec toi dans l'Intégral Sport. Merci beaucoup, Eric. 14h25 sur RMC. On revient tout de suite dans l'Intégral Sport avec le début de votre magazine olympique en route pour Paris 2024 avec notre invité du jour, Timothée Vergia, tout juste qualifié pour les JO avec l'équipe de France de basket 3-3. A tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Retour dans l'Intégral Sport sur RMC. On vous accompagne jusqu'à 15h. Après, c'est la suite de votre après-midi avec notamment à 15h45 la finale de la Champions Cup entre Toulouse et le Leinster. Vous en avez l'habitude comme tous les week-ends sur RMC. C'est l'heure de votre magazine olympique. On est à 62 jours maintenant du début des Jeux Olympiques de Paris 2024.
RMC, en route pour Paris 2024.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant de vous donner les toutes dernières infos, notre invité du jour aura la chance de vivre cette expérience folle des Jeux à Paris cet été. Et Timothée Vergia, tout juste qualifié pour les JO avec l'équipe de France de basket 3-3, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Timothée.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Félicitations déjà à vous. On va rappeler que les Bleus ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire en demi-finale du tournoi de qualification olympique face à la Mongolie. Les trois premiers du tournoi obtenaient leur ticket. Victoire sur le fil 21-20 grâce à votre panier de la victoire, Timothée. Racontez-nous ce tir et le suspense qui s'en est suivi.
Non, mon tir, c'est un peu le tir que tu t'imagines quand t'es enfant et que t'es dans ton jardin et que dans ta tête tu te dis 3, 2, 1 et que tu tires et que tu t'imagines des scénarios de fou. C'est ce que j'imaginais depuis quelques mois, on y pensait tous à se qualifier et tu te fais toujours des scénarios plus ou moins rocambolesques et là c'était le meilleur scénario possible. Je récupère la balle, il doit rester 5 secondes de possession. Je venais juste de mettre un panier à 2 points juste avant et quand je reçois la balle, je me dis voilà, il faut tenter pour la victoire quoi. Et je sais que mon défenseur va sauter, donc je fais une petite feinte et je tire et donc derrière je marque et là bah c'est la joie même.
Ouais.
Au début c'est la joie et après donc on commence à se congratuler, à crier dans tous les sens et là les arbitres sifflent. Et on se regarde un peu tous.
Oui, parce qu'on va rappeler que les arbitres, évidemment, regardent si votre pied n'est pas sur la ligne au moment du tir et que donc ce soit bien un tir à 2 points qui vous offre à ce moment-là la victoire puisque vous atteignez les 21 points.
Oui, voilà, exactement. Donc là, il se passe, on va dire, je sais même pas combien de temps ça a duré en vrai, ça a dû durer 30 secondes, mais c'était super long. Les arbitres vont voir la vidéo, on voit sur l'écran géant l'image. Quand je vois l'écran géant, je me dis que c'est bon.
Parce que vous êtes sûr que c'est un 2 points ou vous avez un petit doute quand même?
Non, pas du tout. Je suis pas du tout sûr. dans le feu d'action, honnêtement, je savais pas. Et après, je vois. En plus, on voit qu'ils zooment. Ils zooment beaucoup sur l'action, sur mon pied. J'ai plutôt des petits pieds pour un basketteur. Je fais du 44, donc ça a peut-être aidé. Parce que même les coachs disaient restez concentrés au cas où, mais je pense que ça aurait été impossible de reprendre derrière si c'était qu'à 1 point. Et là, au moment où ils annoncent que c'est vraiment un 2 points, là c'est l'explosion. On saute dessus avec le staff, entre les joueurs. Ça a mis une certaine dramaturgie dans le truc, mais ça amplifie encore plus la joie après.
Ouais, on a senti beaucoup d'émotions de la part de tout le monde après le match, des joueurs évidemment, mais le staff aussi. C'est un vrai accomplissement aussi pour vous, pour cette équipe, cette qualification pour les Jeux à Paris.
Oui, en fait, il faut savoir qu'on avait vraiment une très grosse pression. C'était la dernière chance pour le 3-3 français. C'était le dernier sport olympique, dernier sport collectif qui n'était pas qualifié automatiquement. Ouais. C'était le seul. Sachant que la Fédé avait investi beaucoup sur le projet 2024, sur le 3-3, ça fait 2 ans qu'ils avaient mis beaucoup d'argent dessus. Donc il y avait, voilà, il y avait de la pression pour nous les joueurs, pour la fédé économiquement, pour le staff. Donc ça a vraiment été une libération de pouvoir y aller, quoi.
Ça fait quoi, Timothée, d'être celui qui envoie pour la première fois de l'histoire l'équipe de France de basket 3-3 au JO? C'est pas mal sur un CV, ça, quand même.
Ouais, c'est pas mal. J'ai du mal à vraiment en prendre conscience. Et en fait, c'est quand je suis revenu en France que j'ai vu tous mes amis, la famille. En fait, sur moi, je croise quelqu'un, il m'en parle. Donc là, c'est vraiment là où j'ai vu la portée de ce tir. Et c'est vrai que c'est l'intitulé, il est magnifique. Envoyer l'équipe de France aux Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire, c'est quelque chose de grand. Je vous mens pas que je regarde la vidéo
en boucle
encore tous les jours et que ça me fait toujours des frissons. Donc,
je pense que vous avez donné beaucoup de frissons à beaucoup de gens en voyant cette vidéo, hein.
Ouais, c'est un peu ça dont je suis le plus fier, c'est qu'à chaque fois on parle, il y a des gens qui m'ont dit on a pleuré, il y en a qui m'ont dit on a fait casser la télé, il y en a qui ont sauté de joie, qui ont réveillé les voisins, à chaque fois on me dit des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui... Je pense que ça devait être un match qui était vraiment... C'est pour ça qu'on regarde du sport, en fait, quand ça se finit bien, la dramaturgie comme ça.
Eh ben oui.
C'est le moment où on se rappelle, sachant qu'il y a eu le quart de finale où c'était pareil juste avant.
Mais j'allais vous en parler, hein, justement, de ce parcours des Bleus dans ce tournoi de qualification olympique. Ça avait été difficile, vous l'avez dit, en quart contre l'Allemagne avec une victoire au buzzer cette fois-ci. Et là encore, face à la Mongolie, hein, vous étiez globalement dominé dans ce match, mais vous parvenez quand même à vous imposer avec cette dramaturgie dont vous parlez. C'est le caractère aussi de votre équipe qui parle sur ces matchs-là si difficiles?
C'est vrai que si on combine les deux matchs, je pense qu'on est devant peut-être une minute sur les deux matchs en tout. Et non, honnêtement, c'est peut-être notre force là aussi, c'est qu'on est resté, on était derrière, on n'a jamais trop paniqué. Après, je vais pas vous mentir, hein, contre la Mongolie, quand on perdait de 4 points à 18-14, j'étais pas serein non plus. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais paniqué et au final, il faut toujours un petit brin de réussite aussi. On a eu ce petit brin de réussite avec le tir en quart, avec la planche, qui lui, pour moi, est le vrai tir vraiment qui nous sauve, parce qu'en quart, si tu perds, bah, t'as plus de chance, c'est terminé. Mmh. Alors que moi, encore, on avait la troisième place peut-être pour aller chercher. Mmh. Mais non, ouais, niveau caractère, on a été bien présents et même, ouais. Un autre mot avec un C, mais je
dirais
pas l'antenne.
Ouais, mais je pense qu'on l'a. Timothée Verger est avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC, tout juste qualifié pour les JO avec l'équipe de France de basket 3-3. On va rappeler quand même que c'est pas rien que ce soit vous qui mettiez ce tir-là qui qualifie les Bleus, parce que vous avez été élu meilleur joueur de ce tournoi de qualification olympique, Timothée.
Oui. Après, donc ça, ça fait toujours plaisir. Après, honnêtement, sur ce tournoi-là. Et encore plus que sur d'autres avec l'équipe de France, là c'était vraiment qualifier le pays, l'enjeu était vraiment très très grand, la pression de résultat, on a senti aussi dans l'équipe que même s'il y avait des joueurs qui étaient moins bien à certains matchs, le plus important c'était de gagner, parce qu'on avait vraiment un but commun là, entre le staff, la fédé, les joueurs. Après ça, forcément ça fait vraiment plaisir d'être reconnu et d'avoir su de MVP.
Cette dramaturgie dont on parle avec ces fins de match complètement folles, on a l'impression que c'est propre aussi à ce basket 3-3, ce suspense jusqu'au bout, tout ce qui se joue sur un tir, c'est ce qui vous plaît aussi dans cette discipline-là?
Oui, c'est complètement ce qui me plaît. On peut passer des émotions à pleurer de parce qu'on a gagné, à pleurer parce qu'on a perdu. Et puis ça dépend d'un tir, d'un petit truc. Il se passe toujours beaucoup de choses au 3-3. C'est pour ça que les gens aiment aussi. Là, honnêtement, le tournoi, ça a été la meilleure pub possible pour le 3-3. Parce que tous les matchs ont été super serrés avec des scénarios de fou. Après, la FIBA communique très très bien dessus aussi, parce qu'il y a toujours des vidéos qui sortent directement juste après les matchs. Je pense vraiment que ça peut être un sport qui... au JO qui peut faire sensation, parce que c'est dehors, c'est urbain, il y a de la musique, c'est vraiment bonne ambiance. Et puis il y a des émotions décuplées par rapport au 55 par exemple.
Que vous connaissez bien, parce qu'on va le rappeler quand même, vous êtes meneur à Blois en Betclic Elite à côté. Comment vous en êtes venu du coup à faire une pige avec le 3-3? Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est votre club qui vous autorise, qui vous libère à être avec l'équipe de France de 3-3?
Oui, c'est un peu compliqué, parce que contractuellement on est avec notre club de 5-5, et c'est deux disciplines qui tendent à se détacher un peu. Le 3-3 son propre calendrier, le 5-5 aussi, le 3-3 essaye de professionnaliser le plus de joueurs possible, que maintenant les joueurs fassent que ça, que du 3-3. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant des fois pour les clubs. Donc mon club, la Diablois, a été compatissant en me laissant partir. Après, on n'avait plus rien à jouer non plus en championnat, nous. Mais c'est vrai que ça peut poser des questions des fois, au niveau contractuellement, de libérer les joueurs, même si c'est l'équipe de France et que l'équipe de France, ça se refuse pas. Bon, c'est vrai que ça empiète un peu des fois.
Rassurez-nous quand même, cet été, vous allez être libérés pour les disputer, ces JO à Paris. Vous avez eu tant de mal à qualifier l'équipe de France. Vous allez y aller à la place de la Concorde?
Ah non, oui, bah ça, c'est même pas négociable. ça, je pense que voilà, tout. Faut pas être, ils sont pas bêtes non plus. Ils savent très bien que ça fait parler de deux aussi. Donc, non, pour les JO, il y aura aucun souci. Il n'y aura vraiment aucun souci.
Ouais, je pense que vous voyez déjà là sur la place de la Concorde devant un public en feu pour essayer d'aller chercher ce titre olympique. Je pense que là, si vous passez le panier en boucle face à la Mongolie, vous êtes aussi projeté sur ce qui vous attend cet été à Paris, non?
Ah oui, c'est sûr. Même si on n'est pas encore sûr à 100% d'y être, parce qu'il y aura, il y aura encore des préparations, une sélection aussi qui peut changer. Mais en tout cas, oui, j'y pense tout le temps. Là maintenant. Autant avant, je pensais vraiment qu'au tournoi et à se qualifier. Je pensais pas du tout aux JO. Mmh. Là, maintenant, je commence à y penser. Voilà, j'ai envie de faire la cérémonie d'ouverture. Quand on a atterri en France, j'ai l'impression de voir que des panneaux parlant de ça, alors qu'avant, peut-être, je les remarquais pas, tu vois. Donc, non, maintenant, oui, on m'en parlait tous les jours. Donc, forcément, ça va être dans ma tête. Et quand je vois le lieu où ça va être fantastique.
Ça va être un très très beau spectacle et on sera évidemment au rendez-vous. Merci beaucoup Timothée d'avoir été avec nous. Félicitations encore et on espère évidemment vous retrouver cet été au JO sur RMC pour nous faire vivre de grandes émotions encore. Merci Timothée.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et 14h41 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite. La suite de En route pour Paris 2024, votre magazine olympique avec les toutes dernières infos avec Julien Richard. C'est juste après ça, tout de suite sur RMC.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi. À 14h44 sur RMC, on est de retour dans l'Intégral Sport. À 15h, Christophe Cessieux va prendre le relais pour vous faire vivre la première finale du jour, la finale de la Champions Cup entre Toulouse et le Leinster, en espérant une nouvelle victoire française. On est toujours au cœur de votre magazine olympique dans l'Intégral Sport sur RMC. Place maintenant à l'actualité avec Julien Richard. Salut Julien.
Salut Flora, bonjour à toutes et à tous.
Et c'est tout chaud, c'était cette nuit, Léon Marchand, déjà très rapide.
À 3 semaines des sélections olympiques à Chartres, et alors qu'il descend à peine des montagnes du Colorado, il a effectué un traditionnel gros stage bien copieux en altitude avec son entraîneur Bob Bowman. Et bien Léon Marchand a brillé en Californie dans le meeting d'Irvine, première fois sous la minute au 100 mètres bras, c'est une barrière mythique, 59 secondes et 6 centièmes, deuxième performeur français de l'histoire. Il se rapproche du vieux record de France Duc Dubosc qui date de 2009. Ce 100 mètres bras, c'est pas à son programme hein, pour les joueurs individuels, mais ça confirme une excellente nouvelle pour le relais 4x100 mètres 4 nages français. Et puis sur sa course, le 200 mètres 4 nages, eh bien cette nuit, deuxième perf mondiale de l'année derrière le chinois champion olympique en titre Wang Shun. 1 minute 55 secondes 74 centièmes, quatrième chrono de sa carrière à ce stade de la saison et de la préparation. Bah, c'est vraiment une très très grosse performance. Chartres, les championnats de France, donc les sélections olympiques, ça sera du 16 au 21 juin pour la natation française. Passage obligé pour se qualifier à Paris.
Oui, mais il sera là, Léon Marchand, évidemment.
Et il faut qu'il se qualifie à Chartres, comme oui. Tous les autres nageurs français.
Oui, oui, mais voilà. Donc il va se qualifier facilement, évidemment. On reste dans l'eau. Julien, grand bleu dans la grande bleue pour les bleus. Ça s'invente
c'est
pas.
Beau ce
ça,
que tu c'est nous
écrit
dis,
par Julien Richard d'une main de maître.
C'est très joli. Les nageurs français d'eau libre ont marqué leur territoire hier à 77 jours de leur épreuve olympique dans la Seine avec un doublé sur la deuxième étape de Coupe du Monde. C'était à Golfo Aranci en Sardaigne. Marc-Antoine Olivier s'impose devant Logan Fontaine. Les deux Français ont dépassé dans les derniers mètres le champion du monde en titre, le Hongrois Krzysztof Razowski. Deuxième à Doha, justement derrière ce Hongrois, eh bien Marc-Antoine Olivier a cette fois touché devant.
C'est important parce que ça marque le coup, même si on n'était pas préparé et qu'on sait que le niveau Coupe du monde ne va être rien à voir par rapport au championnat d'Europe ou encore au jeu, mais c'est important de marquer le coup, de montrer qu'on est présent. On est là, on bosse bien et non, de réécouter cette Marseillaise déjà, ça fait du bien. Puis on a envie de l'entendre chez nous maintenant, à Paris.
Et la Marseillaise à Paris, pour les garçons, ce serait le 9 août, pour les filles, ce sera le 8. La course, belle cinquième place hein, chez les filles de Caroline Jouisse sur cette épreuve donc en Sardaigne. En revanche, mauvaise nouvelle pour Océane Cassignol, qui elle a dû abandonner, elle a une douleur à l'épaule droite, et elle va devoir rentrer en France, passer des examens ce lundi pour trouver une solution et soigner ce petit bobo. Toujours en Sardaigne, c'était the place to be, je ne sais pas comment on dit en italien.
Donne envie, hein.
Une Marseillaise et le plein de confiance, cette fois pour les Françaises en triathlon. Victoire il y a quelques minutes de Cassandre Beaugrand sur la deuxième étape des World Series à Cagliari. C'est une performance qui lui permet de valider sa qualification pour le triathlon olympique cet été. Emma Lombardi termine au pied du podium. Une quatrième place qui lui permet de prendre la tête du classement général de ces World Series. Et puis 26e place pour Léonie Perriot qui s'était imposée sur la première étape avec Yokohama il y a deux semaines de cela. Ces trois-là, donc Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Perriot, devraient former le trio olympique à Paris cet été. La sélection sera annoncée le 5 juin prochain.
On suit aussi la course au point pour les Jeux Olympiques en tennis de table entre Alexis Lebrun et Simon Gauzy.
Oui, course à distance pour décrocher le deuxième ticket individuel du tournoi olympique et donc accompagner Félix Lebrun. Le grand frère Alexis est en ce moment en Chine, tournoi contender de Taïwan. En demi-finale, il y a quelques minutes là aussi, il n'a pas eu de mal à se débarrasser du coréen Sang-soo Lee. Victoire 3-0, il disputera la finale peut-être face au numéro 4 mondial. Pourquoi c'est un parcours très important est-ce qui est en train de se passer est précieux pour Alexis Lebrun dans la course à la qualif. Eh bien, il a 200 points de retard au classement sur Simon Gauzy. Et avec cette victoire-là, il va lui en reprendre 140. Et s'il remporte le tournoi, il en prendra 400. Donc, il repassera devant. Il restera une seule grosse compétition pour prendre des points dans cette lutte pour la place, le ticket, le deuxième ticket individuel au jeu.
C'est le feuilleton sportif aussi de cet avant JO de Paris. On est avec Kevin Mayer cette fois-ci qui va tenter les minima olympiques.
Et on sait
où il va le faire surtout. Ouais.
A priori, un dieu du stade à Rome, ça se tient. Le double médaillé d'argent olympique du décathlon a obtenu une invitation, donc une wild card, pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Rome du 7 au 12 juin prochain. Alors pour le moment, il n'a pas communiqué sur sa présence à Rome, mais ce serait désormais l'option privilégiée pour réussir ces fameux 8460 points sur le décathlon pour participer au JO. C'est une invitation de la Fédération Européenne, donc il prend la place de personne dans le quota de la France. Et puis c'est un contexte qui convient parfaitement au recordman du monde, une vraie compétition avec de l'enjeu. Il avait tenté une première fois, souvenez-vous, en mars à San Diego aux États-Unis, une petite compétition universitaire, mais il avait stoppé son effort après la hauteur en raison d'une douleur à la cuisse.
Il nous fait peur quand même, Kevin de meilleur hein, quant à sa présence cet été à Paris. Une dernière médaille hier au mondiaux de judo à Abu Dhabi.
Oui, médaille d'argent dans la compétition par équipe mixte, défaite en finale, j'ai envie de dire comme d'habitude, contre le Japon. L'équipe de France a vécu des mondiaux, on va dire en clair-obscur, clair avec les filles, plus sombre avec les garçons. Morgane Maury qui était notre envoyé spécial à Abu Dhabi.
La France termine 6e au rang des nations avec 5 médailles dont un titre. Pas de panique, la bonne nouvelle, ce sont les 4 médailles des 4 sélectionnés olympiques. Christophe Massina, patron de l'équipe fille, bilan prometteur à 2 mois des JO.
À 2 mois des Jeux, je trouve que déjà le fait qu'elle soit sur la boîte, c'est plutôt rassurant. On a emmagasiné plein d'infos, maintenant on va prendre un peu de temps de se poser. Ça va nous permettre de pouvoir recharger les batteries et de repartir dans cette préparation terminale avec justement plein d'informations intéressantes.
En bonus, lors mondial de Margot Pino à 30 ans, toutes les filles seront tête de série aux JO, c'est un plus. Amandine Bouchard, Clarissa Beninou, Marie-Ève Gaillet, Madeleine Malonga, toutes sur un podium. Alors oui, sans or, mais l'appétit bien aiguisé de ces filles pour les JO, écoutez-les.
Surtout essayer d'entendre une Marseillaise et que j'ai mon 4 à l'INSEP, parce que ça, j'y tire vraiment. Donc c'est pas grave, dans 2 mois, j'ai encore une opportunité de pouvoir l'avoir, ce 4, donc il va falloir que je me bouge un peu le derrière.
Ça me conforte et je me dis, mais si je suis comme ça dans 2 mois, avec la concentration des Jeux Olympiques, mais en fait, je serai intouchable.
Si c'est l'argent qui va m'amener à l'or, il n'y a pas de souci.
J'ai fait avec les 100% de ce que j'avais. Au final, je suis quand même sur le podium. Donc, et puis en même temps, c'est dans 2 mois, les Jeux, là. Donc, j'espère que c'est de bon augure pour la suite.
Les garçons ne sont pas montés sur le moindre podium. Chez les 5 sélectionnés olympiques, aucun n'a remporté plus de 2 combats. Alors oui, Teddy Riner n'est pas là. Luca Meraidze, numéro 3 mondial des 60 kilos, revenait de blessure. Baptiste Leroy, responsable des masculins.
Plutôt moyen que raté, parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont la tête aux Jeux Olympiques. Ils avaient envie de gagner, mais ils ont la tête et on a la tête aux Jeux Olympiques, même ne serait-ce que dans la préparation. La planification, elle est faite pour essayer, si elle est bien faite, d'arriver en forme au mois de juillet et pas forcément au mois de mai, puisque on avait le quota, on jouait quasi plus de ranking list, donc il n'est pas raté.
Un championnat à 0 médaille, ça arrive. Il reste 2 mois pour rattraper l'élite. Le capitaine Riner va revenir pour Paris. C'est au Grand Palais éphémère, lieu du judo pendant les JO, qu'on aura la vérité de la saison.
L'info de la semaine aussi, Julien, c'est le soulagement pour Isaora Tibus, blanchie après son contrôle antidopage anormal en janvier dernier.
Elle était suspendue provisoirement depuis le 8 février et elle a enfin pu reprendre le chemin de l'entraînement, retrouver ses coéquipières de l'équipe de France. Isaora Tibus a obtenu gain de cause, championne du monde 2022 de Fleuret. Elle a réussi à prouver que la présence d'ostarine, donc substance interdite dans ce contrôle antidopage anormal, était due à une contamination par fluide corporel avec son compagnon Racing Boden, qui avait pris sans lui dire un complément alimentaire interdit. Le tribunal disciplinaire antidopage de la Fédération internationale d'escrime n'a pas prononcé donc de sanctions. Un immense soulagement et un grand bonheur, s'est réjoui Isaora Tibus dans un communiqué. Pour la Fédération française aussi, c'est un soulagement. Il faut maintenant se tourner vers les Jeux dans moins de deux mois, le manager du Fleuret féminin, Yann Détienne.
On fera tout pour qu'elle soit au championnat d'Europe et si elle est en état de le faire, elle le fera parce que pour arriver prête aux Jeux Olympiques, il faut qu'elle se remette en rythme et en rythme également des oppositions en compétition. Elle sera dans la sélection des championnats d'Europe à partir du moment où elle était blanchie, était garantie pour les Jeux. Alors bien entendu, ça va être une course contre la montre. Hein. Il va y avoir un temps de réathlétisation, mais je ne doute pas une seconde qu'elle soit en capacité d'être prête pour les Jeux.
Voilà, les championnats d'Europe dont parlait Yann Détienne, c'est à partir du 18 juin prochain. Isaora Tibus, 32 ans, elle n'a pas repris l'entraînement d'ailleurs avec Racing Boden, son compagnon américain qui était dans le staff français à la base. Elle préparera les JO avec son maître d'armes italien pour les leçons individuelles et les séances collectives à l'INSEP, l'escrime, où décidément cette saison olympique ça grince de partout en coulisses, avec cette fois le départ du responsable du sabre masculin à moins de deux mois des Jeux. Alain Coicco a claqué la porte de son poste d'entraîneur donc du sabre. Il a expliqué qu'il démissionnait car ses choix n'ont pas été respectés, remplacé par son adjoint Julien Médard. Le trio de titulaires du sabre sont connus pour les Jeux Bolladé à Pitti, Maxime Pierfanti et Sébastien Patrice. Sans transition peut-être, mais promis, sans transition, attention les oreilles. Ça, c'est et Lucie Anastasiou, vice-championne d'Europe du skit à Lonato en Italie. C'est du baltrap, hein, le skit, vous voyez ce que c'est, au bord du lac de Garde. La tireuse française a été battue hier en finale par une pointure, l'italienne championne olympique de Rio et vice-championne à Tokyo, Diana Baccozzi. Lucie Anastasiou décroche surtout avec cette médaille d'argent, eh bien, le quota olympique pour les JO de Paris.
Les Jeux de Paris, il insiste, il veut les faire.
Qui c'est ce il? Eh bien, c'est
celui
Kylian
dont tout le monde parle.
Ouais, qui a redit jeudi son envie donc de participer à la fête olympique cet été. L'attaquant parisien qui devrait disputer ce soir son dernier match avec le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face à Lyon était jeudi à la Philharmonie de Paris pour un événement avec son association IBKM.
Je pense que j'ai plus besoin de dire mon intention. Tout le monde la connaît. Je pense qu'il faut laisser faire les choses. Je suis dans un moment où je laisse faire les choses et. Après, comme j'ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision, je serai content, mais c'est sûr que les Jeux à Paris, c'est spécial. Quand je saurai, j'en parlerai, mais moi, j'en sais rien. Comme j'ai dit, ça dépend pas que de moi. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment finir la saison bien et quand on aura un message à me faire passer, je serai là pour le recevoir.
Et oui, ça dépend pas que de lui, Kiki. On le rappelle, le tournoi olympique ne fait pas partie des fenêtres internationales de la FIFA, donc, les clubs ont le choix de libérer ou pas leurs joueurs. Mais quel club, on ne sait pas. Le Real Madrid a déjà indiqué qu'il ne laisserait pas partir ses internationaux pour les JO. Mais cette semaine, quand même, le président du futur club de Mbappé, donc Florentino Pérez, était à Paris pour les 120 ans de la FIFA et il a déjeuné avec Emmanuel Macron. Ah, il y avait également Thierry Henry qui n'était pas très loin. Tiens, à la table pour essayer peut-être de convaincre.
Thierry Henry, pas sûr que ça fonctionne. À la tête de la sélection olympique. Merci beaucoup, Julien, pour toute l'actualité olympique. 14h55 sur RMC, c'est l'heure de passer le relais dans cette folle après-midi à Christophe Cessieux qui va nous régaler. Salut Christophe, avec quelques finales déjà avec toi au programme.
Ah là là, c'est une belle journée de finale qui nous attend évidemment avec dans un instant, on va prendre la direction de Londres pour la première finale de l'après-midi. C'est la Champions Cup de rugby entre le Stade Toulousain et le Leinster. On peut pas rêver plus belle affiche.
Ah là, tu nous fais rêver
rugby.
Là.
Il y aura évidemment la finale de la Ligue des Champions féminine de foot cette fois-ci, et puis la finale de la Coupe de France ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Bref, on va se régaler tout au long de l'après-midi de la soirée. Tu vas pouvoir nous écouter tranquillement.
Je vais écouter tout ça très attentivement. Allez, 14h56 sur RMC, l'intégral sport continue.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.